Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On s'en fout version Coupe du Monde 2022 avec Julien de Camédia et aujourd'hui Roberto Croza, expert du football sud-américain et bien connu dans nos contrées helvétiques. Bonjour Roberto, comment vas-tu?
Bonjour, bonjour Nico, bonjour Julien, très bien.
Tu suis un peu cette Coupe du Monde ou pas du tout?
Oui, bien sûr, c'est le métier, alors... Je ne peux pas m'en passer.
Donc, si on te pose des questions aujourd'hui, pardon, tu sauras répondre, c'est ça?
Oui, aucun problème.
Salut Julien, comment vas-tu?
Salut Nico, ça va bien et toi, merci.
Impeccable, la Suisse a gagné, donc tu es content?
Je suis content et je me réjouis de voir ce match-là. On est à un peu plus de 24 heures du match au sommet du groupe, on va l'appeler ça comme ça, entre le Brésil et la Suisse. Ça va être un super match. Je me réjouis de suivre ça.
Alors, on parlera de cette équipe de Suisse et de ce match à venir. Mais on va profiter de Roberto aujourd'hui pour qu'il nous donne un peu son regard sur cette Coupe du Monde version Qatar et sur le vu que c'est un expert du football sud-américain, sur ces équipes sud-américaines, voire Amérique centrale, etc., sur le niveau de ces équipes-là. On va rappeler que Roberto est argentin. J'ai dit ça, je ne dis pas plus. Et qui nous donne peut-être un peu des clés de lecture sur l'équipe du Brésil que la Suisse va rencontrer. Comment tu vois cette Coupe du Monde version avec ces équipes sud-américaines surtout?
Oui, bon, c'est une Coupe du Monde un peu à surprise. Mais il y a un truc, aujourd'hui, tout le monde sait courir. Alors ça, c'est vrai que ça équilibre un peu les niveaux d'un certain côté, dans la partie physique. Après, c'est vrai qu'il y a des équipes qui font ce petit plus, mais ça, c'est au niveau mental, au niveau caractère, au niveau surtout technique et des formations. Mais je vois vraiment qu'il n'y a pas de complexe. Les petites équipes, ils sont pas complexées. Ils vont vraiment, ils lâchent tout. Et ils croient. Alors, c'est une jolie coupe du monde. Après, par rapport aux équipes sud-américaines, voilà, la France. Toujours, les équipes sud-américaines, c'est de baisser un peu leur rythme de jeu et de ne pas jouer du coup pour coup comme ils jouent les Européens. Les Européens, voilà, sauf peut-être l'Espagne qui sont là-bas tout le temps. Après, ils adorent courir, ils adorent faire des longues courses, ils adorent aller jusqu'à la ligne de fond, ils adorent voilà, jouer à ce rythme frénétique et fou. Et qui peuvent le faire parce qu'ils sont vraiment, ils ont été construits comme ça et ils ont une belle technique pour jouer assez haut niveau au rythme. Alors, les équipes sud-américaines, ça c'est clair, c'est notre style de jeu. Et on a vu l'Argentine, même contre l'Arabie Saoudite. Et ils n'ont pas pu poser un peu le jeu. Ils ont joué un peu au niveau physique et au niveau des tu-à-tu contre l'Arabie. Alors, on a eu des problèmes. Mais voilà, c'est la même chose pour l'Uruguay. Le Brésil, c'est un mixte. Après ces jeux un peu posés, tranquilles, et ces changements de rythme frénétiques qu'ils ont avec des joueurs magnifiques. Et voilà, l'Équateur, c'est une équipe qui ne donne rien, très bien assise. L'entraîneur, c'est vraiment un phénomène. Et c'est pas quelqu'un qui va donner du spectacle, c'est pas quelqu'un qui va s'ouvrir à ces jeux magnifiques à 200 à l'heure. C'est quelqu'un d'assez calme et d'avoir de ne pas perdre cette organisation, hein, c'est la chose la plus importante.
On en parlait récemment, toi et moi, excuse-moi, de l'Équateur, que ici en Suisse ou en Europe, peut-être, on aurait tendance à sous-estimer cette équipe d'Équateur, Et toi, tu étais, t'avais plutôt un regard et tu me disais non, Nico, l'Équateur produit d'excellents joueurs avec un rapport qualité-prix aussi super intéressant par rapport à d'autres nations comme la Colombie ou d'autres. Et c'est vraiment une équipe qui peut faire la surprise, en plus dans ce groupe où elle est encore relativement bien placée.
Oui, tout à fait, tout à fait. Après, je ne sais pas, disons, ça c'est vrai que ces équipes-là, ils sont, ouais, ils ont une limite. Et après, je crois que aller contre les grosses cylindrées de ces mondes, c'est un peu difficile. Mais on voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses au niveau physique, au niveau technique, au niveau tactique. Et c'était un peu le problème. Des équipes sud-américaines, surtout la Colombie ou bien l'Équateur, c'était des magnifiques joueurs toujours, mais la partie tactique ça manquait. Et maintenant ils sont très 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 à suivre vraiment cette partie tactique. Gustavo Alfaro vraiment il leur a changé la tête de ces côtés-là, et la patience, il perdait la patience, oui. C'est un peu comme les Africains, c'est magnifique, il y a des super joueurs, mais ils arrivent, ils ont un peu de la peine de créer des équipes, d'avoir la patience, d'attendre le moment, et il y a des moments qu'il faut pas aller comme des fous, il y a des moments qu'il faut subir, peut-être. Alors, une fois que ces équipes-là, avec la puissance physique et techniquement, ils sont super, comme les Équatoriens, et une fois qu'ils comprennent cette partie-là, ils deviennent plus forts. Ça, c'est clair. Et moi, je crois que l'Équateur, c'est, au niveau football et au niveau joueur, c'est vraiment un joli, ils sont un joli avenir ici en Amérique latine.
Julien, toi, t'as vu comment ce début de Coupe du Monde avec ces Brésiliens dans le groupe de la Suisse qui ont extrêmement bien maîtrisé leur sujet. Je trouve contre les Serbes, ils les ont assez étouffés avec deux buts magnifiques. T'as quelques craintes par rapport à ce match à venir, toi ?
Quelques craintes, oui, forcément. Je pense que tous les observateurs ont été impressionnés par cette équipe du Brésil. Moi, à titre personnel, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné sur le début de Coupe du Monde. Ils ont joué un match presque parfait contre la Serbie, où ils ont 60% de possession de balle. Ils ont fait plus de 20 tirs. Vraiment, dans tous les secteurs de jeu, ils étaient supérieurs à leur adversaire. Ils ont récupéré la balle de manière très rapide, ils avaient un très bon pressing, derrière, une fois qu'ils ont le ballon, ça joue vite, c'est technique, enfin, ils ont absolument tout. Par rapport aux autres années, je les sens aussi physiquement déjà très affûtés et très présents dans les duels, ce qui peut-être, c'est quelque chose qui manquait à l'époque, à cette équipe de Brésil, où on y mettait toujours beaucoup de qualités techniques, mais peut-être un petit peu moins physiques. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont absolument tout. Et peut-être un joueur qui symbolise un peu ça, c'est l'attaquant Richarlison, qui du coup est vraiment ce joueur de pivot et ce buteur qui permet derrière au jeu brésilien à se mettre en place. Donc des craintes, non, elles sont clairement là. Après, l'équipe de Suisse a aussi des qualités. Et puis, elle peut contenir, je pense, cette équipe du Brésil, et puis elle peut faire quelque chose. Il faudra forcément que tout soit presque parfait pour pouvoir réaliser un exploit, parce que c'est clairement un exploit qu'il va falloir faire contre le Brésil. Mais on l'a vu par le passé, hein, la Suisse avait affronté le Brésil lors de la dernière Coupe du Monde, et puis avait réussi à faire match nul, avec une performance au niveau de la solidarité qui était exemplaire. Et je pense qu'il va falloir se rapprocher un petit peu de ces valeurs-là et de ce type de performance, même si je pense qu'au niveau du jeu, peut-être la Suisse peut profiter de quelques lacunes. Le terme est peut-être un peu fort, mais quelques lacunes au niveau du Brésil, où j'ai l'impression que l'équipe se découvre assez facilement. La Serbie avait la place de placer des contre-attaques et ont très mal joué le coup, je pense. Et je pense que là, la Suisse peut-être, surtout avec la verticalité prônée par Murat Yakin, jouer un coup et puis peut-être baser sa tactique sur ces coups-là, à jouer cette verticalité.
Richarlison, qui n'était pas certain de jouer cette Coupe du Monde, hein, l'attaquant qui s'était blessé, qui n'était pas sûr de revenir. Et effectivement, moi aussi, j'ai été assez impressionné par ta présence physique et la présence physique de tous ces Brésiliens. Peut-être la différence qu'on peut observer par rapport aux autres Coupes du Monde, c'est qu'elles se déroulent au milieu d'une année, d'une saison de football et que tout le monde est super affûté. Peut-être c'est ça qui fait la différence. Tu parlais de Murat Yakin. Ben, Beto, tu le connais bien aussi. Murat, tu connais bien tout ce football suisse. Qu'est-ce que tu en as pensé de l'analyse de Julien sur les possibilités que la Suisse puisse prendre à revers cette équipe du Brésil au milieu de terrain, peut-être?
Ton regard, oui, non, je suis tout à fait d'accord avec Julien. Et après, c'est vrai que le Brésil, bon, on les connaît très bien, aussi en Amérique latine, et la dernière finale de la Copa América, bon, c'est l'Argentine qui a gagné au Maracana. Et c'est une équipe, et si on les laisse jouer, hein, et c'est les Brésiliens, ils commencent à nous faire comme ça, et tout va bien, et voilà. Et c'est une équipe qu'il faut pas avoir de complexes. Et c'est ça que j'aime de la Suisse. La Suisse, il n'a pas de complexes. La Suisse, peut-être, ça c'est clair, on ne va pas avoir la main mise sur le match contre le Brésil parce que techniquement, ils sont magnifiques. Mais il faut pas avoir des complexes, il faut les bousculer. Et à un certain moment, comme il a dit Julien, c'est le moment des transitions. La Suisse, elle est très bien, elle va très vite, mais il faut oser contre cette équipe-là. Il faut les mettre un peu en doute. Si on les laisse faire, on perd 6-0, et voilà, c'est la lambada, la salsa, et tout ce qu'on peut... Tout ce qu'on peut, mais c'est clair, parce que les Brésiliens, tout de suite,
ils s'enflamment un peu après.
Ils s'enflamment très, très, très vite. Mais, quand on lui met un ou deux stops, je crois qu'il commence à douter comme n'importe quelle équipe.
Et est-ce qu'ils ont un point faible, peut-être? Est-ce qu'ils ont un point faible, peut-être? L'âge des défenseurs centraux, peut-être?
Disons, moi je crois que individuellement c'est un peu difficile à dire qu'ils sont un point faible. S'il faut aller vers Thiago avec Mbolo, il faut fixer toujours ces joueurs là. C'est une belle équipe, c'est une équipe qui est n'importe qui peut tant faire la différence comme si on trouve un point faible individuellement, il y a quelqu'un pour couvrir. Moi, je crois que c'est au niveau équipe qu'on peut les bousculer, comment on peut les faire bouger à un certain moment, comment on peut faire cette transition, élargir la profondeur de l'équipe du Brésil. Et là, oui, on peut avoir des espaces. Après, au niveau individuel, je crois pas qu'ils sont à un endroit qui ont dit, voilà, on passe ici à droite parce que lui, il est faible. Ils sont de ces côtés-là, non. C'est plutôt côté équipe, comment on peut les bouger. Et pas d'un côté à l'autre. Non, c'est surtout dans la transition et dans la profondeur qu'on peut leur faire du mal.
Et pour toi, la clé.
Voilà.
Excuse-moi.
Le Brésil. Oui. Non, j'ai dit, le Brésil, comme les grosses équipes, ils savent pas quand vraiment ils se sont bousculés pour une équipe, des niveaux inférieurs, et ça, il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire. Et alors, c'est ça qu'on peut les faire rentrer un peu dans le doute. Et après, il faut prier. Des vins, ils commencent à faire ce qu'ils font. Voilà. Aussi, il faut savoir subir. Et ouais, il faut avoir un peu de chance.
Est-ce que Julien, c'est une bonne nouvelle que Neymar ne joue pas le prochain match contre la Suisse ou un Neymar en cache un autre, et la question que j'avais pour toi surtout, Julien, c'est qui, alors on a évoqué Mbolo, hein, on reviendra peut-être dessus après, mais quelle est la clé, à ton avis, pour que la Suisse gagne ce match ou, dans une moindre mesure, qu'elle ne le perde pas?
Oui, alors l'absence de Neymar, c'est forcément une bonne nouvelle pour la Suisse. On sait que quand tu joues contre Neymar, tu te prends forcément un ou deux cartons jaunes. Les deux défenseurs centraux suisses sont déjà sous la menace de cartons jaunes pour le match contre la Serbie, donc c'est une bonne nouvelle. En plus de ça, j'ai l'impression qu'en plus de ses qualités footballistiques, Neymar, il a un petit peu cet effet catalyseur dans cette équipe du Brésil par rapport à des joueurs comme Rafinha, comme Vinicius, comme Rodrigo ou Anthony qui sont plus jeunes. Et sa présence, elle permet peut-être d'éviter que certains en fassent trop. Il a vraiment ce rôle où on sent que Neymar, aujourd'hui, il a pris de la bouteille et puis il est presque en mission pour aller chercher cette Coupe du Monde. Donc, son absence contre la Suisse, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, d'un point de vue qualitatif, il va être remplacé par un super joueur. Le Brésil, ils ont un, voire deux bancs. Donc, c'est de toute façon, le danger existera malgré l'absence de Neymar. Pour la clé, pour l'équipe de Suisse, je pense qu'il y a clairement cet aspect de solidarité que j'ai évoqué avant. Il y a Mbolo, où je pense que le fait que Mbolo puisse jouer en pivot et puis garder certains ballons dans certains moments clés du match pour permettre à la Suisse de récupérer un petit peu la possession et de poser son jeu, c'est quelque chose qui va être très important. La Suisse va être sous pression. Il faut pas croire que la Suisse aura 55 ou 60% de la possession de balle contre le Brésil. Mais par contre, au moment où on le récupère, à certains moments de match, Mbolo va devoir pouvoir jouer en pivot et puis permettre à la Suisse de se repositionner et puis de faire travailler les ailiers à bon escient. Donc ça, je pense que c'est un autre élément clé de cette équipe de Suisse. Un troisième élément, à mon avis, ça va être la performance de Yann Sommer. Il va être mis à contribution et Yann Sommer devra sortir un grand match. Alors, on est un petit peu habitué, hein, nous en Suisse, à compter sur Yann Sommer et puis ses prouesses. Et demain, bah, Yann Sommer, il devra être à nouveau dans un bon jour pour sortir les quelques grosses occasions qu'il y aura du Brésil et puis permettre à la Suisse de tenir le plus longtemps le match avec zéro but encaissé. Puis derrière, il faudra se montrer efficace lorsqu'on a la possibilité de partir en contre-attaque ou les coups de pied arrêtés aussi. Je pense que le Brésil, les coups de pied arrêtés défensifs, ce n'est pas forcément leur point fort. C'est pas les coups de pied arrêtés offensifs, ce n'est pas forcément le point fort de l'équipe de Suisse, mais on a quand même des joueurs comme Manuel Akanji ou Brahim Mbolo qui sont capables de faire la différence de la tête. Et je pense que ça, c'est des éléments qui peuvent être très importants pour l'équipe de Suisse.
Est-ce que Julien, Mourad va changer son système contre le Brésil, va apporter on parlait de ces deux défenseurs centraux qui sont sous la menace d'une suspension pour le troisième match. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait d'autres joueurs sur ce 11 de base?
Alors, moi, j'y crois pas une seconde. On sait que Mourad, il aime bien quand même nous sortir un petit joker de son jeu de cartes et puis toujours avoir un petit côté créatif. Mais là, l'équipe de Suisse, elle va prendre match après match. Il le répète depuis le début de cette compétition. Ils nourrissent des ambitions. L'équipe de Suisse, elle joue contre le Brésil pour se qualifier après deux matchs et battre le Brésil, très clairement. Je pense que l'équipe de Suisse part avec cette conviction-là. Et je ne vois pas Mourad changer sa défense centrale dans l'optique de se dire ce qu'on veut, c'est cette finalissima contre la Serbie, et puis il me faut ma défense centrale pour ce match-là. Je pense que là, l'équipe, ce qu'elle veut, c'est être à l'abri avant ce match contre la Serbie, et pour ça, il y aura besoin de Akanji et d'Elvedi dans la défense centrale.
Ok, merci Julien. Roberto, on sait que tu as travaillé plusieurs années pour le FC Bâle, hein, notamment dans le recrutement de joueurs africains ou sud-américains notamment. Donc, quand Julien parle de Yann Sommer, de Manuel Akanji, Brahim Mbolo, c'est tous des garçons que tu as vu grandir, que tu as côtoyé lors de tes années bâloises. Quel est ton regard sur… Il y a une couleur quand même assez bâloise dans cette équipe de Suisse avec ces joueurs-là, même si ça fait longtemps qu'ils ne jouent plus pour le FCB, mais il y a Frey qui est encore là. Yakin a aussi été longtemps bâloire. Toi, quel est ton regard? Est-ce que tu as la même clé de réussite, tu vois la même chose que Julien pour que la Suisse parvienne à battre le Brésil?
Oui, non, je parlais des transitions, je n'ai pas parlé après d'avoir, comme il dit Julien aussi, il ne faut pas s'attendre la Suisse à avoir vraiment le contrôle du match. Même contre le Cameroun, c'était pas un contrôle de match extraordinaire. Et sauf après, quand on fait les 1-0, ça c'est clair que là, il y a un certain calme qui s'installe. Mais contre le Brésil, voilà, il va falloir subir. Et subir, ça veut dire des occasions, comme dit Julien, un bon gardien, une belle défense, et tout ça. Et surtout les transitions, quand on gagne en profondeur, quand on fait le Brésil un peu, on fait décoller les lignes. Et c'est là qu'on peut faire du mal. Après, par rapport à FC Bâle, ouais, ça fait plaisir. Bon, quand je me rappelle de l'avoir vu à Winterthur quand il était très jeune, et de l'avoir amené à Bâle. Et Richarlison, c'est un joueur qui en est resté toujours vraiment avec les joueurs ici, parce qu'on était, le voir avec le Rudi Smith, la deuxième division au Brésil. Et dans un endroit vraiment paumé au Brésil, on a vu ce joueur-là, un fou, qui allait comme, vraiment, c'était un sauvage, je veux dire, dans ce jeu, il y avait rien de précis, je veux dire, mais c'est un joueur qui prenait la balle et qui tentait, qui pointait les 1 contre 1, qui voulait faire, il recevait des coups, mais pour le tuer. Et c'est quelqu'un qui continuait. Et ça, c'était un regret de ne pas pouvoir l'avoir pris à balle. Alors voilà. Et c'est cette partie émotionnelle qui va gérer toujours les êtres humains. Et là, on peut faire des pronostics, statistiques, algorithmes, et tout ce que ça peut nous passer par la tête. Et c'est la partie émotionnelle et comment on gère ces émotions et comment on gère ces moments-là qui peut faire la différence toujours. Et heureusement. Alors la Suisse, elle n'a pas de complexe. Alors ça c'est bien, elle sait souffrir quand il y a des moments. Et elle n'a pas de complexe. Alors c'est un joli coup à jouer. Après, voilà, peut-être des 10 matchs, le Brésil va gagner, oui. Mais peut-être ces deux-là, ouais, ça peut être cool.
C'est un groupe assez émotionnel pour la Suisse, je trouve, avec le Cameroun, avec nos joueurs ex-ressortissants d'Afrique, mais Mbolo en particulier, qui est né à Yaoundé. Le Brésil, on a moins de joueurs binationaux suisses brésiliens, mais vraiment cette gestion de se mesurer à ce qui se fait de mieux, au Gotha du foot. Et après, la Serbie, on a vu dans le vestiaire serbe, il y avait déjà des attaques contre le Kosovo, etc. Donc, on se rappelle, il y a 4 ans, il y avait l'histoire des aigles, etc., de Shaqiri et compagnie. Je pense que ça va être de nouveau un match très tendu à gérer émotionnellement. Et voilà, la Suisse serait bien inspirée de faire 3 points contre le Brésil. Ah, je vais être assez suisse. Hein. J'aimerais déjà, si on fait un match nul, je serais assez content quand même de finir avec 4 points. Julien, qu'est-ce que tu en penses? Tu mises sur un match nul, tu prends?
Un match nul, je prends. Je pense qu'il faut quand même si on est ambitieux, il faut rester réaliste. Le Brésil, c'est le favori pour gagner le titre de champion du monde. C'est très fort. Moi, je suis très content avec un match nul, même si du coup, l'affaire ne sera pas pliée, puis tout se jouera contre la Serbie.
Un petit pronostic quand même. Je sais que vous êtes des experts en pronostic, les deux. Non, juste pour rire. Alors, moi j'ai pronostiqué un match nul 1-1 entre le Brésil et la Suisse, qui me paraissait assez correct, mais en même temps, je me suis planté sur pas mal de résultats en ce début de Coupe du Monde. Donc, un pronostic et peut-être votre vainqueur final après avoir vu quasi un tour et demi. Roberto, qu'est-ce que t'en penses?
Donc, au niveau pronostic, vraiment, bon, j'ai raconté tout à l'heure, Argentine, Arabie Saoudite, c'est fini la première mi-temps. Argentine 1-0 avec 4 goals annulés, et c'est bien annulé et tout. Mais l'Arabie Saoudite, voilà, pas sur le terrain, c'était pas une équipe. Alors j'ai dit à ma femme, elle devait faire deux ou trois trucs, et j'ai dit, bon, écoute, on va maintenant, on va faire ça. Et parce que bon, c'est match, il est plié, c'est pas ça, tranquille. On est monté sur dans la voiture, je mets la radio argentine toujours, et voilà. Je pouvais pas y croire que c'était 2-1 et qu'on n'a pas pu, non, on n'a pas pu remonter. Alors, pronostic, non, j'aimerais de tout cœur, vraiment, et ouais, un joli match. Et après, c'est jouer tout contre la Serbie, c'est clair. Mm-hmm. Est-ce que tu dis contre la Serbie? Ça, c'est un joli match. C'est un joli match. Vraiment, les émotions là, ça va être la clé de ces matchs-là. Pour l'un et pour l'autre. Mm-hmm. Disons, un point contre le Brésil, hein, c'est assigné. Mm-hmm.
Julien?
Et après, pour gagner. Ah, excuse.
Non, vas-y, non, finis Beto, pardon.
Non, pour gagner la coupe du Monde, je veux dire, moi, la France, ça m'a impressionné.
France assez impressionnant, hein. Ouais. Brésil aussi.
Le Brésil est vraiment avoir un joueur qui fait tellement la différence, comme Mbappé, et dans des moments clés d'un match, un mec qui a vraiment ce niveau physique aujourd'hui. Mm. Il fait cette différence.
Wow. Il remplace un Hernandez par un autre et voilà. Et franchement, c'est encore mieux que ce qu'on pouvait imaginer. Donc c'est assez fou.
Tout à fait. Quand j'ai vu, bon, pour moi, Kanté, c'était un joueur, mais il pouvait pas manquer. Mais voilà. On voit aujourd'hui la France. Voilà. Il manque. C'est mieux d'équilibre total pour une équipe comme ça. Et bah, moi, ça m'a impressionné, la France. Ouais.
Donc, pour l'instant, tu mettrais un billet sur la France
D'abord pour l'Argentine. Non, d'abord pour l'Argentine. Ça, c'est
ah,
non, non,
quand même.
Après l'Argentine, peut-être la France.
Julien.
Non, mais moi, je pense que pour le pronostic du match, je vois... Un joli 1, hein, comme c'était le cas lors de la dernière Coupe du Monde. Et puis, tout le monde est content avec ce match nul. Clairement. Et puis, aujourd'hui, mon favori pour le titre, ça reste le Brésil. Sur ce que j'ai vu, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné, même devant la France, même si j'avoue que la France est assez impressionnante. Mais je vois quand même le Brésil un cran au-dessus.
Bon, moi, je vais me fâcher avec vous parce que, alors, pas complètement, parce que je vais aussi pronostiquer un match nul 1-1, comme je l'avais dit précédemment, entre la Suisse et le Brésil. Mais moi, j'ai un cœur qui est tellement partagé entre plein de pays et plein de cultures de foot que j'aime énormément les Pays-Bas et l'Angleterre. Et j'aimerais qu'ils puissent aller loin dans la compétition. Après, effectivement, la France, j'ai énormément de peine avec cette équipe, avec ses mentalités. Cette arrogance qu'on voit régulièrement, mais je veux dire, on ne peut pas dire autrement qu'ils ont été au-dessus jusqu'à maintenant. Et l'équipe d'Espagne, j'ai trouvé très bien aussi, alors contre une faible opposition, mais très, très joueuse, très intéressante. Et puis le Brésil aussi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie, ouais, monsieur.
Par rapport à ce que j'ai vu, j'ai dit la France. Je ne crois pas qu'il va gagner le championnat du monde. Ça, disons, par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, mais je ne crois pas. Et ce que tu dis d'arrogance, moi, j'ai fait vite là. Et moi, je n'aime pas Mbappé. J'aime pas ces trucs. J'ai fait un goal. Je ne qualifie pas ces goals. Parce que c'est quelque chose de normal. Venez à moi, embrassez-moi. C'est quelque chose de normal. Je déteste ça. Mm-hmm. Hier, quand il a marqué le deuxième goal, j'ai vu quelqu'un d'autre. Ah, il a commencé à crier avec ses supporters et tout ça. Ça, c'est quelque chose d'autre. Parce que sinon, c'est un manque de respect qu'il a envers l'adversaire. C'est pour ça que j'aime pas ces joueurs. J'aime pas ces joueurs, je les connais pas. Mais j'adore comme joueur, ça c'est clair. Mais ces trucs-là, ils m'énervent.
Bon, je crois qu'on est assez de l'avis, Julien et moi, sur ta vision de Mbappé. Écoutez, messieurs, merci d'avoir partagé ce moment ensemble. C'était très intéressant, comme toujours, d'avoir vos éclairages sur ces équipes et sur cette Coupe du Monde. Quant à nous, chers auditeurs et auditrices, nous allons nous retrouver très bientôt après ce match d'équipe de Suisse. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aux deux en quelques mots, messieurs, juste pour le prochain podcast?
Un bon match.
Un bon match. Et toi, Beto, une belle Coupe du Monde et une qualification de l'Argentine.
Mais bon, c'est trop sentimental, mais c'est clair. C'est clair. Hier c'était extraordinaire. Et tu dis, c'était un match de plus, mais c'était vraiment extraordinaire. Ah, c'est mon jour. Heureusement qu'on va s'en faire.
Je vous embrasse. On va terminer. On a presque plus de temps. Merci aux deux.
Merci Nico.
Merci Nico.
Et... ciao. On vous embrasse.
Bye. Merci Julien.
Ciao tout le monde. Ciao, ciao.
Super. Au plaisir. Ciao.
Ciao.